Alors, ce que je vais présenter, c'est surtout, ce sont des traits de peinture, en fait, des peintures. Je me suis amusé à travailler sur les topoi concernant Charles II en travaillant sur les différentes circonstances liées à la vie de Charles II. Donc, pour chacun des éléments, depuis la naissance jusqu'à la mort, j'ai travaillé sur les topoi qui apparaissaient dans la littérature, dans la poésie consacrée à Charles II d'Espagne. D'ailleurs, c'est ce qui donne l'inédit de mon âge d'air. Donc, c'est un peu le Parnasse au service de la monarchie espagnole. Je vais me consacrer particulièrement à un élément qui, moi, me paraît fondamental concernant la personne de Charles II, c'est le discours poétique, littéraire, autour de sa maladie. C'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui est propre à cette période, et c'est ce qui me permet également de jeter un pont avec l'iconographie, avec la peinture. Donc c'est comment faire de Charles II un personnage chétif, faible, maladif, finalement le roi qu'il doit être, donc ce qui apparaît dans les programmes iconographiques, mais qui apparaît également dans, je dirais, les programmes littéraires. Donc tout au long de l'époque moderne, la fabrication de l'image du roi s'avéra être une question primordiale. Depuis le milieu du XVIe siècle, la maison d'Autriche avait défini et développé un rigoureux système d'autoreprésentation et, grâce à l'intervention des plus grands artistes de leur époque, une iconographie unique et singulière. De sorte que, lorsque le roi enfant Charles II monta sur le trône d'Espagne, il devenait le titulaire, et je cite, « non solo con la colección de pinturas de mayor calidad en la Europa de su momento, con una tradición pictórica cuya línea más directa era la sucesión Tiziano Rubens Velázquez, y con una serie de modelos y tipos artísticos muy consolidados, sino con un sistema de palacios y construcciones perfectamente estructurado, cuyos hitos fundamentales eran el Real Alcázar de Madrid y el Real Monasterio del Escorial. Avec la quietud, l'impassibilité, la solennité, la sévérité ou encore la gravité, considérées comme les vertus prototypiques de la dynastie des Habsbourg pour gouverner de manière adéquate, la dissimulation était l'une des principales caractéristiques du pouvoir et de la majesté du monarque espagnol. La difficulté ou le caractère inusuel que représentait de voir le souverain, le fait même de voir le souverain, rendait essentiel le recours au portrait de cour, qui, dans la pratique, remplaçait dans une égale équivalence la personne physique, tangible et réelle du monarque. Selon le principe ancien et pleinement en vigueur à l'époque de Regis Imago Rex Est, il incombait alors au peintre Aulique de constituer en ses œuvres un système autonome où, à chaque élément, lui était attribué un sens symbolique afin de représenter le pouvoir royal de la monarchie hispanique, impossible à approcher et à atteindre. Suivant la conception médiévale des deux corps de la royauté apparue au XIIIe siècle et revigorée sous le règne de Philippe II, le monarque devait être reconnaissable, mais son image dépassait sa propre personne pour incarner une idée invisible et intangible, politique et immortelle, symbole de la continuité historique, de l'incarnation de l'idée d'État, de monarchie, de dynastie, de majesté royale et de société. Cependant, les peintres devaient parvenir à associer, dans une seule et unique image, la représentation des deux personnes du roi. Afin de dépasser la difficulté qui résultait de l'obtention d'un équilibre entre vraisemblance, imitatio, et idée de majesté, decorum, les artistes eurent recours à la figure rhétorique classique de la dissimulatio, qui permettait d'atteindre le juste milieu entre fidélité physique, réalisme et dignité, noblesse ou, en un mot, décorum. En conséquence, l'atténuation ou la dissimulation des défauts physiques du modèle par l'embellissement était chose courante et assumée par les portraitistes, depuis la Renaissance. Dans son discours d'investiture à l'Académie royale des sciences morales et politiques, consacré à l'image du roi sous les Habsbourg espagnols, Carmelo di Santolosana proposait une définition moderne du concept médiéval des deux personnes du roi. « En la imagen desaparece el referente real, queda vacía de su contenido sustancial concreto. El cuerpo del rey sirve todo lo más de soporte, maniquí o máscara, lo mismo que las pinturas y esculturas que lo reproducen y demás signos icónicos que lo representan. La imagen convoca y hace comparecer, bajo la especie de su cuerpo, una presencia real otra, un rol, una densidad ontológica, la realeza. La imagen es una figura, una ficción, una representación figurativa que vacía el cuerpo mortal del rey y lo sustituye por un cuerpo místico. aunque subsista, como no puede ser menos, el primero, lo que importa es la presencia regia ahí engastada. La persona y vida particular del rey vienen silenciadas y narcotizadas por la potencia de la imagen total. Cuanto mayor es esta, menores son aquellas. El rey debe sacrificarse en su interioridad, idiosincrasia, modos y maneras privadas por su pueblo. Al ser rey se convierte en la figura pública, es una imagen. Más radicalmente, a la pregunta ¿qué es el rey?, la respuesta antropológica, concisa, escueta, pero plena de significados es: el rey es su imagen. La imagen hacia el rey, con mayúscula siempre. El rey es verdaderamente su imagen y detrás de ella hay solamente agazapado un hombre de carne mortal, un ser corriente. Bien, une fois cela dit, como diría en español, dicho esto, ¿qué podemos añadir? Plus que ses prédécesseurs se posaient de façon particulière et tendue la question de la représentation du roi dans le cas de Charles II. Il fut en effet le roi le plus malade et le plus fragile jamais assis sur le trône d'Espagne, ce qui le rendait plus mortel et moins courant que le reste des hommes, du coup, si je reprends ce qu'a dit Lisson Tolosana. Et la délicate santé du monarque, tout au long de sa vie, contraignit précisément les artistes de la cour, mais aussi de l'ensemble des territoires de la monarchie hispanique, à renforcer sa faible image publique avec d'écrasantes représentations visuelles de caractère officiel, et à créer de nouveaux types d'images représentatives du jeune roi, fondée sur l'idéalisation de l'apparence de Charles II. Jamais règne Habsbourg n'aura connu pareil déploiement de programmes destinés à la royauté. Didactique, par le biais des traités de théorie politique et livres d'emblèmes, aucun monarque Habsbourg, aucun monarque espagnol, tout simplement, jusqu'à Charles II, n'avait connu en son règne autant de publications de traités de politique. Traités de politique, il y en a toute une... J'en ai recensé toute une page, il y en a énormément, parce que, justement, se posait la question de la... du roi et de sa représentation. Et au même titre, didactique donc, par le biais des ouvrages de théorie politique, livres d'emblèmes et iconographiques avec la création d'une image royale. À l'instar de la peinture, moyen efficace de rendre visible la majesté du roi en reproduisant les codes symboliques et politiques de son apparence, et au même titre que d'autres expressions artistiques éphémères, provisoires ou non, architecture, sculpture, musique, décors et machines, feux d'artifice, arts décoratifs et visuels, la littérature participa de la création de ce portrait du roi au sens défini par Louis Marin. Et sans aucun doute de manière plus efficace que tout autre instrument de propagande. En effet, dans les limites que leur imposaient leur imagination, leur culture, leur talent poétique et le décorum, les poètes pouvaient laisser libre cours à leur plume encomiastique, parvenant par le biais des artifices de la rhétorique à provoquer les mêmes sentiments de respect, de révérence, de vénération et de crainte que lorsque le monarque apparaissait hiératique en audience publique. Dans le cas de Charles II, la représentation et le portrait poétique de la structure symbolique et morale que représentent la monarchie et le roi d'Espagne furent principalement orientés vers la divinisation et l'unicité du modèle. Mais n'était-ce pas la fonction des poètes de cour que d'embellir la réalité? No hay duda que los pintores, como los poetas, son grandes amigos de amplificar, comme l'indiquait le baron Paolo Sfondrato dans une lettre adressée à l'ambassadeur espagnol Juan de Idiáquez au début du XVIIe siècle. Afin de rendre compte de ces représentations poétiques relatives aux derniers représentants de la maison d'Autriche espagnole, les lignes qui suivront s'arrêteront sur certaines circonstances personnelles de sa vie et de son règne. En tant qu'affaire d'État, la santé des membres de la famille royale, et particulièrement celle du roi, faisait l'objet d'une attention toute particulière de la part des sujets de la couronne. En effet, la présence du souverain, père, juge, chef militaire et défenseur du royaume contre les ennemis de la foi catholique, était considérée comme l'assurance de la stabilité et la tranquillité de la monarchie. La maladie du monarque provoquait ainsi une période d'instabilité, paralysant l'activité administrative par la suspension des sessions des conseils, des audiences royales ou des dépêches qui devaient être signées par le roi. Par ailleurs, la continuité de la dynastie permettait de garantir la défense des valeurs traditionnelles et la conservation de la monarchie catholique, comme l'avait rappelé Luis Méndez de Haro au roi Philippe IV lorsqu'il évoqua le problème que supposait l'absence de descendance royale. La monarchie catholique, a falta de real sucesión varonil, se halla en trance de pasar al dominio de príncipes no naturales o extraños. Es lance en que va todo el caudal de España, cuando está la monarquía tan a pique de pasarse a príncipes austríacos, que las desdicha fuera felicidad, o a franceses totalmente extraños. La présence d'un héritier garantissait la sauvegarde des valeurs traditionnelles et collectives, la conservation de la monarchie et, en définitive, la stabilité politique, en évitant les dangereuses périodes d'interrègne ou les redoutées régences. La première obligation de l'épouse du roi était donc de donner naissance à une nombreuse progéniture qui puisse consolider la survivance de la dynastie. Cela explique l'attention toute particulière accordée aux accouchements royaux, dont le succès donnait lieu à de grandes festivités données en l'honneur du rejeton de l'arbre dynastique, ainsi qu'à la maladie de l'un des enfants royaux, à plus forte raison de celui qui devait hériter de la couronne. Le bon rétablissement du roi ou de son héritier était d'une telle importance qu'étaient organisées des processions de prières publiques. Les incertitudes provoquées par l'absence d'un héritier au trône d'Espagne, le risque de démembrement de la monarchie hispanique qui pouvait en découler, et surtout l'arrogante attitude de puissances européennes qui se partageaient ces territoires du vivant de Charles II, firent en effet que la faiblesse du jeune monarque espagnol devint une abondante source d'inspiration poétique et que, de la même façon, se virent multiplier les textes divers écrits à l'occasion de ses accès de maladie. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'étude quantitative des œuvres consacrées aux représentants de la maison d'Autriche espagnole est éloquente. Si le nombre des compositions poétiques dédiées à la santé des quatre premiers rois Habsbourg est peu significatif, les ouvrages écrits sous le règne de Charles II sont en revanche pléthores, avec plus d'une cinquantaine de pliegos sueltos poétiques, recueils poétiques ou relations incluant des poèmes, sans compter la vingtaine d'ouvrages supplémentaires dont le titre laisse supposer une possible écriture à l'occasion de la guérison du dernier monarque Habsbourg. Parallèlement au programme de propagande que la reine-mère tenta d'opposer aux perpétuelles allusions à la santé de Charles II, notamment dans le cadre d'une iconographie officielle destinée à montrer enfant-roi plein de vie et de santé, se développa ainsi ce que nous pouvons considérer comme un nouveau genre poétique, malgré la grande variété dont firent preuve les poètes dans le traitement littéraire de la question, un genre qui apparut à l'aune des circonstances particulières du règne de Charles II et qui dépassait la limite du cadre exclusivement palatin pour s'affirmer comme un type de discours d'éloge. Les compositions poétiques dédiées à la guérison du souverain espagnol furent si nombreuses que Juan Palomino de Orozco, un des poètes mineurs de l'époque, ne put s'empêcher de le reconnaître avec un certain dépit et en guise de captatio benevolentiae dans les vers suivants. Señor, de vuestro accidente sobre quien se ha escrito tanto, ni accidente ni sustancia para escribir ha quedado. Le premier, donc je vais maintenant établir une série de topoi, depuis le moment de la maladie jusqu'à la guérison, en tout cas les attitudes, etc. Ce sont les principaux topoi qui apparaissent dans la littérature de santé ou de maladie de Charles II. Le premier d'entre eux est bien évidemment lié à la volonté divine, c'est le paradoxe de la maladie du roi. Le premier des deux mouvements internes, par exemple, du romance Segundo Carlos Porcuya, écrit par le poète et dramaturge José Pérez de Montero, était dominé par la stupéfaction, l'incompréhension et la perplexité d'un jeu lyrique devant la maladie de Charles II. Comment avait pu se former le sombre nuage qui avait osé menacer, selon lui, qu'aucun pouvoir ne pouvait offenser? Étant donné la nature inférieure, les causes secondaires qui constituent le nuage n'auraient pas dû affecter le roi, dont le statut appartient, bien au contraire, à l'ordre des choses supérieures. Il dit la chose suivante. Como señor hay dolencia que a tanta costa procure ennoblecerle al remedio las ansiosas prontitudes. ¿Cómo de segundas causas pudo condensarse nube que presumida amenace donde no hay poder que injurie? Pérez de Montoro faisait ainsi apparaître l'idée selon laquelle, en ce qui concernait la personne du monarque, une anomalie s'était produite, en opposition aux lois naturelles, une disproportion entre la nature quasi-divine du souverain espagnol et le prosaïque et antinaturel accident de la maladie. Le propos du poète est de souligner la condition supérieure de Charles II en rappelant, au moyen d'un topos de divinisation fréquente dans les discours d'Iloge, les étoiles obéissent au fils du soleil et sont incapables d'agir sur sa fortune, à la différence de ce qui se passe pour le commun des mortels. Il dit cela, c'est ce qui a donné le titre à mon intervention. Vos, que sois hijos del sol, y que a la sagrada lumbre que os anima, las estrellas más obedecen que influyen, vos, que no solo una vida respiráis, pues os infunde muchas el continuo voto que no se acaba y se cumple, vos, en que su acero limpio tiene la fe, aun cuando sufre que ardiente vapor la empañe antes que ella la desnude, etc., etc. De toute façon, après, c'est la rhétorique propre de l'époque, avec une agudeza incompleja, ou compleja, comme on pouvait l'appeler Gracián, c'est-à-dire une succession. Donc c'est aussi une espèce d'emphase et d'écriture. Et le propos du poète, c'est surtout d'écrire et de faire le plus d'agudezas et de conceptos possibles. Donc c'est pour ça que vous avez toute une série de poèmes à rallonge. Donc notamment ceux-là. Par ailleurs, le roi était immortel, dans la mesure où il bénéficiait des vœux continuels de longue vie formulés par le peuple, et qu'il était dépositaire le gardien de l'épée de la foi catholique, dont il était le premier défenseur. Étant donné la nature divine du monarque et sa proximité avec l'affaire céleste, le poète avait légitimement le droit de s'interroger, perplexe, sur la situation paradoxale occasionnée par la crise de fièvre tierce ou par les nombreuses crises de fièvre tierce de Charles II. ¿Cómo, a riesgo de un achaque, la contingencia os reduce, si aún menos que los acasos pueden las solicitudes? Les interrogations du poète et les réflexions qui en découlent l'amènent à proposer une hypothèse expliquant l'indisposition du fragile monarque espagnol. Seule une décision, un haut décret, provenant de l'amour que manifeste Dieu envers le roi, pouvait justifier la terrible situation qui avait provoqué les craintes de ses fidèles sujets. Mas, sin duda, alto decreto. El mal hacia vos conduce, porque el amor se acredite, aunque la lealtad se asuste. Dans les vers initiaux de son roman fait anonyme, un poète s'est levé contre l'attitude peureuse et craintive des sujets espagnols, en faisant également de la maladie du roi le dessein de Dieu dans une traditionnelle conception providentialiste de la monarchie catholique. ¿De qué es el susto, españoles? ¿De qué es el cobarde miedo si ignoráis de la deidad condicionales decretos? ¿Quién de la alta providencia ha penetrado los senos, en cuyo campo espacioso se tejen los altos misteriosos? Charles II n'avait-il pas été le fruit tardif et inespéré d'un vieux Philippe IV? La naissance du prince héritier n'avait-elle pas alors été un miracle en faisant de l'hiver un printemps? Donc, là, le jeu entre hiver et printemps est très fréquent. Donc, les sujets de Charles II devaient donc sécher leurs larmes, cesser de manifester leur peur et croire en les desseins favorables de Dieu. Un autre élément qui apparaît de façon fréquente, ce sont les intercesseurs de Dieu dans la guérison du monarque, notamment les intercesseurs madrilènes, et nous verrons par la suite également la mère de Charles II qui était décédée. Alors l'épisode de maladie du roi, principalement, celui qui a donné lieu au plus grand nombre d'écrits poétiques, sont les crises de fièvre tierce de 1696. Septembre 1696 jusqu'à octobre, novembre, il guérit en novembre, mais plus tôt, donc au cours de cette année, était morte sa mère, Marianne d'Autriche. Donc à cette occasion-là, elle devient une espèce d'intercesseur aussi auprès de Dieu. Donc si l'épisode de la maladie de Charles II était une épreuve divine, sa guérison était également le fruit de la volonté de Dieu par le truchement d'intercesseurs. Plus d'une dizaine de pliegos sueltos, publiés comme action de grâce, nous est parvenu. 5 sont consacrés à la Vierge de la Solitude, 1 à celle d'Atocha, 2 à San Diego de Alcalá, il s'agit même en fait de la même condition poétique mais publiée à 2 reprises, et 2 font conjointement allusion à l'action de Notre-Dame d'Atocha, Notre-Dame de la Solitude, Saint Isidore Laboureur et San Diego de Alcalá. Il convient également d'ajouter à ces imprimés les relations de festivité organisées par des institutions, à l'instar de la députation de Catalogne, qui remercia la Sainte Trinité et le patron de la principauté, Saint-Georges, le 4 novembre 1696, la Lonja del Mar de la ville de Barcelone, les 2 bras ecclésiastiques et séculiers de la ville de Cadix, ou encore la Corporation des marchands de Madrid en l'honneur de leur patron, Saint-François. Donc, on essaye de faire également, bon, je ne vais pas en parler beaucoup, mais ce sont bien évidemment des interventions de ces poètes se font généralement par le biais d'intercesseurs à leur tour, se font par le biais de nobles qui servent de truchement avec la monarchie. Donc ça leur permet en fait d'obtenir les faveurs royales, les faveurs par le biais d'un noble local, donc d'obtenir surtout les faveurs d'un noble local. Parmi ces œuvres également, ce qui était important de prendre en compte, c'était les nombreux villancicos. Alors les villancicos qui n'ont plus rien à voir avec la Marimonena, etc., mais qui étaient vraiment à la fin du XVIIe siècle de véritables cantates, avec l'insertion, on le sait maintenant, enfin en travaillant sur Pérez de Montalvo, on s'est rendu compte, et puis on en a parlé avec les musicologues, que finalement l'entrée de l'aria, du récitatif, etc., était beaucoup plus tôt. C'était produit de façon beaucoup plus tôt en Espagne, vers 1684, des années 80, alors que jusqu'à présent, les ouvrages disaient que c'était toujours sous Philippe V d'Espagne, toujours dans cette vision de révolution, je dirais, culturelle par le premier Bourbon, etc. Mais on sait maintenant que de nombreux éléments étaient intégrés à ce moment-là. Donc je vais passer sur les intercesseurs. Donc, juste savoir qu'il y a de nombreux ouvrages consacrés à ces saints, à telle enseigne que certains poètes en arrivèrent même à se demander à quel saint se vouer, en disant, par exemple, si je prends un volume en entier consacré à cela, pide la devoción piadosamente fervorosa, se determine por cuál intercesión alcanzó entera salud nuestro rey Carlos II, que Dios guarde. Si por Nuestra Señora de Atocha, por Nuestra Señora de la Soledad, por San Isidro o por San Diego de Alcalá. Et donc il y a des poèmes, après il y a des débats sur qui a été finalement celui qui a apporté son aide à Charles II d'Espagne. Bien évidemment, l'intercession des vierges ne pouvait que répondre à une nécessité que précisent certains auteurs en montrant que Charles II d'Espagne était l'Atlante de la foi catholique. C'est une image qui apparaît dans tous les poèmes, quelle que soit la circonstance, donc celui d'Atlante, donc le personnage mythique, mythologique, pour représenter cette fois-ci Charles II comme défenseur de l'Immaculée Conception. La représentation métaphorique de sources mythologiques faisant du monarque espagnol un Atlante soutenant la sphère céleste, relevé, comme je viens de vous dire, du topique, la définition même du terme proposé par l'Académie royale espagnole en 1726 le souligne. Il dit la chose suivante. « Voz muy usada de los poetas, y algunas veces en la prosa, para expresar aquello que real o metafóricamente se dice sustentar un gran peso. » Bien. Parmi les missions que Charles II avait héritées de ses prédécesseurs, la défense de l'Immaculée Conception tenait une place toute particulière. Philippe III et Philippe IV avaient en effet tout mis en œuvre pour la définition et la reconnaissance du dogme. Doctrine à l'époque. Le roi Planète jura en 1654 la croyance dans l'Immaculée Conception de Marie pour que l'ensemble des villes et des universités suivent l'exemple de leur monarque. De nombreuses universités espagnoles avaient néanmoins déjà établi le serment, Valence en 1530, très important, notamment pour les romans de chevalerie, parce que parallèlement aux romans de chevalerie se développe un genre développé par l'Église qui sont les fameux récits chevaleresques. Récits spirituels, donc nous avons enfin Emma Herrán Alonso est la grande spécialiste de ce genre littéraire. Donc Valence est très importante. Valence a toujours été un petit peu je sais pas si Marina pourra dire la même chose. Valence a toujours été un peu un fer de lance, un peu en avance sur pas mal de points, et en l'occurrence, dans ce cas-là, pour la défense de l'Immaculée Conception. Il y a énormément de problèmes à Valence, dans les années 1530, Barcelone, Osuna, Grenade, Alcalá, Baeza, etc. etc. Les ordres militaires espagnols de Saint-Jacques, Calatrava et Alcántara, adoptèrent le serment d'obéissance respectivement en 1650, 52, 53. En 1659, Philippe IV dépêcha auprès d'Alexandre VII l'évêque de Plasencia, Luis Crespi de Borgia, en lui donnant pour mission d'obtenir non plus la définition de l'Immaculée Conception, mais une déclaration qui fixa précisément l'objet du culte. Les efforts des Espagnols furent pleinement récompensés par la promulgation, le 8 décembre 1661, de la Constitution Solicitudo Omnium Ecclesiarum, qui définissait le sens véritable du mot conceptio, conceptio, et interdisait toute discussion future qui irait à l'encontre du sentiment commun et pieux de l'Église. Bien. Tout ça, c'est une répercussion également. Donc, du coup, Charles II devient également le défenseur dans la lignée. C'est ce que disait également Jean Croisiavillé tout à l'heure. Je fais en fait un peu un résumé de tout ce que je peux dire. Mais Charles II devait être, par sa maladie, plus que tout autre monarque, plus que tous ses prédécesseurs. Donc, le miroir dynastique est un élément qui est omniprésent. Donc il est le descendant du comte Rodolphe, il est le descendant de Charles Quint, il est descendant des rois, il est descendant de tout en fait, depuis David et Salomon, il est descendant de tout. Et donc du coup il y a même énormément de tous les rois hispaniques. Il est souvent représenté d'ailleurs comme le descendant de la lignée, donc il y a des arbres généalogiques qui apparaissent, et se développent aussi du coup de nombreux ouvrages généalogiques pour défendre cela. Donc David et Salomon, même si ça n'apparaît pas apparemment dans les sermons, c'est omniprésent dans la poésie, c'est omniprésent dans la littérature de fiction. Donc différents exemples du coup de cela. Dans son romance indécasyllabique, Francisco de Figueroa fit appel à cette représentation en y ajoutant les vertus royales de religiosité, piété, justice et zèle. Le lieu commun de l'astre solaire, hein, en guise de locus de l'ineffable, et une nouvelle métaphore mythologique fondée sur le mythème d'Argos pour faire allusion au bon gouvernement de Charles II. Carlos Atlante, siempre infatigable de la fe, defensor de tu pureza, que en religión piedad, justicia y celo, cuando Febo ilumina, Argos gobierna. Ce qui est très intéressant de voir sous Charles II, c'est que tout ce qui avait pu caractériser les rois précédents sont mis de concert, sont conjugués, afin de faire de Charles II véritablement un roi, le roi le plus puissant qui puisse exister, et cela apparaît à tous les niveaux. Par exemple, lorsque vous avez, je fais un excursus, mais lorsqu'on parle par exemple des guerres de Hongrie, 1683-1686, qui vont s'ajouter en 1796, vous avez, l'Espagne ne peut pas participer officiellement, n'a pas les moyens de participer dans la Sainte Ligue convoquée par le pape Innocent XI et ne peut pas intervenir dans la lutte contre le Turc. La France ne le fait pas pour des raisons politiques. C'est un ancien, souvent l'allié de l'allié du Turc, mais était représenté le Saint-Empire et le Saint-Empire, la Pologne et toute une série de volontaires. Parmi les volontaires, il y a des Espagnols, dont le duc de Béjar, qui meurt en 1686 lors de la prise de Bude, enfin de Bouda, avec la ville de l'autre côté, Pest, hein, Bouda, donc qui était la capitale de la Hongrie turque. Le fait que des volontaires espagnols soient, par exemple, présents sur le sol hongrois est suffisant pour faire de Charles II le prince guerrier, le défenseur de la foi catholique. C'est même lui qui va au secours de Léopold Ier, donc qui va au secours de l'empereur. Donc c'est vraiment on fait un retournement de situation, un retournement d'image. C'est Charles II qui devient le guerrier, qui devient le héros, tel qu'on peut le voir dans certains. Il y a un tableau en particulier où il apparaît en armure. Ensuite, à Naples, en Pays-Bas, souvent on fait représentation équestre de Charles II en armure, mais c'est en tout cas cette figure du roi défenseur qui doit apparaître. Un autre topos qui apparaît dans la poésie liée à la guérison du roi ou la maladie du roi, c'est bien évidemment l'amour et la loyauté des sujets du roi qui leur font passer de la confusion à l'allégresse. L'incertitude et l'inquiétude que provoqua la crise de fièvre tierce de Charles II en septembre 1696, trouve son écho dans les vers écrits par l'auteur anonyme de la description encomiastique de l'action de grâce célébrée en 1696, présentée à Cadix. Afin d'appuyer de manière hyperbolique les sentiments éprouvés par les vassaux du roi, le poète introduit un lieu commun fondé sur l'union des corps royal et vassal. La perte de souffle de la part du monarque provoqua l'absence de respiration des sujets de la couronne, et le dit de la façon suivante. Enhorabuena, pues gozoso el mundo ya del funesto parasismo salga, en que mudos temores padecís, porque tristes horrores lamentaba. Pues, oh monarca excelso, tu accidente le puso en tales confusiones y ansias, que juzgándose ya desposeído del aliento vital, no respiraba. Tristes ya sus a tus vasallos a la eterna divina majestad suprema claman el consuelo pidiendo en tal fatiga que angustia el corazón congoja la alma. Donc sentiment de tristesse, d'angoisse. Bon, je vais un peu vite parce que sinon ça va être. Dans le cadre de la divinisation de Charles II, un modèle qui apparaît de façon très fréquente est celui du roi soleil. Roi soleil, bon, qui est omniprésent bien évidemment dans tout ce qui est peinture et notamment dans la poésie, dans la littérature éphémère, mais ce qui est intéressant, c'est que on connaissait le roi planète, on connaissait Philippe IV, El Rey Sol, donc qui a été également utilisé ensuite par Louis XIV. Eh bien, Charles II sera le roi non pas d'un astre, mais de deux astres. Ce sera le roi des deux mondes. Donc, il apparaîtra toujours comme roi des deux mondes. Donc, il sera plus que son père. Il sera davantage que tous les autres rois précédents. Il sera le roi des deux mondes. Donc, ce sera à la fois roi soleil et roi des deux mondes. Ça apparaît souvent. Rey de dos mundos. Oh, Carlos II, rey de dos mundos, etc. Ça apparaîtra souvent. Le problème, c'est que quand on est roi des deux mondes, on est roi de deux continents ou de continents, mais on n'est pas roi d'une planète tout entière. Donc ça dépasse les deux continents qui souvent apparaissent sur la représentation, c'est-à-dire l'Amérique et l'Europe. Alors que le roi planète, le roi l'astre solaire, Philippe IV, il était également roi, comme c'était l'ensemble de la planète, des Philippines, etc. Donc cette représentation, elle disparaît. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, l'image, elle est un petit peu tambaleante, comme on dirait. Donc, l'éloge, par exemple, je vais vous donner un exemple de José Pérez de Montoro, où l'éloge de Charles II repose sur trois lieux communs traditionnels. Le premier, celui de la divinisation du monarque par le biais d'une correspondance avec le soleil, Charles II ayant en effet couronné par l'or offert par l'astre soleil, ce qui faisait de lui représentant dans le monde des mortels, et par ce biais, le généreux soleil diffuse sa lumière sur le peuple espagnol, représentation que l'on pourrait assimiler au topos de la Sapientia, si l'on considère qu'il puisse s'agir également des lumières de l'esprit du roi. Segundo Carlos, por cuya corona el sol contribuye, todo el oro a vuestras sienes y a todo el mundo sus luces, monarca cuyos imperios, aunque vuele, aunque fluctúe, mercurio veloz no mide, ni argos ligera descubre. On a là le topos de l'ineffable, où on ne peut pas atteindre, c'est ce que Curtius a appelé le topos des Indes. Bon, c'est des Indes. C'est-à-dire, le topos, c'est toute la terre sait ce qu'est Charles II. Tout le monde sait qui est Charles II. Donc là, c'est ça. Cette fois-ci, Charles II est tellement vaillant, est tellement guerrier, est tellement fort, que même Mercure n'arrive pas à faire le tour, à diffuser l'information. Voilà, donc c'est cela. Et Argos, malgré ses yeux, n'arrive pas à le diffuser non plus sur l'ensemble de la Terre. Bon, je passe sur différents éléments. Il y a un lieu commun également de la maladie qui est celui de l'éclipse, donc qui apparaît très fréquemment. Le roi Soleil, bien évidemment, donc on verra le jeu avec l'éclipse, les nuages, enfin tout ce qui viendra couvrir un petit peu la luminosité du roi, on le verra également. Donc tout cela, donc, c'est décliné dans la poésie. On voit même par le brouillard, vous voyez, qual aunque oprima el lucimiento febo, bastarda niebla de vapor adusto infundió miedos de sus resplendores, pardon, sin que la duda se le oyase el culto. Donc roi attente des deux mondes. En luttant contre et en vainquant la maladie, ça c'est très intéressant, Charles II avait fait montre de ses capacités guerrières. Donc là, c'est vraiment tiré, vraiment, on essaye de tirer le plus la couverture à l'image. Parmi les textes poétiques offrant cette représentation, l'un des Biencicos chanté dans la cathédrale de Barcelone le 28 octobre 1696, donnait, montrait cette image, condense dans une exhortation topique à la vie, les images topiques participant de la construction du prince chrétien vertueux et guerrier. Il disait la chose suivante. En el templo de la fama, con dulce airosa armonía, acordes ecos resuenan de voces, plectros, clarines y liras, de cuyo alegre aplauso es la voz más válida. Viva de España el César, Carlos viva, viva la firme columna de nuestra fe siempre invicta, viva la unión más conforme del amor y la justicia, viva el Alcides de Europa, de la Austria el Atlante viva, viva el sol de dos mundos, viva de España el César, Carlos viva, que pues sus hazañas dos mundos admiran, razones que aplaudan su mérito el día, en quien de entre horrores feliz resucita, por lo que la fama ordena que digan con plectros y voces, clarines y liras, viva de España el César, Carlos viva. Donc voyez, c'est principalement ça en fait, c'est souvent ce qui caractérise véritablement le discours autour de Charles II, c'est polyadjectivation, ampulosité, enfin c'est vraiment de tout ce qui peut être tout ce qui est rhétorique antérieure, tout, il y a une espèce de condensation de tout cela. Et donc, par accumulation, Charles II est le prince par excellence, lui étant même attribué le titre de César, bien que limité à la seule monarchie hispanique. Défenseur de la foi catholique, invaincu grâce à lui, prince aimant et juste, le souverain espagnol est, de par la filiation revendiquée par les rois hispaniques, le seul Hercule d'Europe. Donc, je ne vais pas parler sur la filiation avec le roi Hercule, qui est un topos, vraiment qui existe, que l'on retrouve encore d'ailleurs sur les armoiries espagnoles. Donc de roi affaibli par la maladie, le César d'Espagne était devenu, par le truchement de l'écriture poétique, le soutien de tout l'édifice politique et religieux de l'Europe. Non moins, nanana, ménage. Bien. Bon, il y a d'autres éléments, je vais passer rapidement. Le roi Aigle, qui est très fréquent, non pas uniquement parce que c'est un roi d'Autriche, enfin un représentant de la maison d'Autriche, mais de toute façon les rois catholiques s'étaient déjà approprié l'aigle comme armoirie, mais en tout cas, donc. Un élément bien évidemment qui est très fréquent, c'est celui de la vie éternelle du monarque, omniprésent, vous voyez même, biba, 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 donc les vivas apparaissent également, c'est le lieu commun de la vie éternelle, qui apparaît en règle générale. Si on construit les poèmes, c'est la partie finale, En règle générale, partie finale du poème, on exhorte à l'immortalité et on exhorte à la vie. Donc du poème, par exemple, « Vivid, Señor, porque viva, cuanto, pero no, que arguye vulgar deseo quien pide que viva el sol porque alumbre. Vivid, porque vos viváis, y la inaccesible cumbre que el nacer os engrandece, el vivir os perpetúe. Vivid, y por vuestra vida se adelanten los comunes ruegos a que se eternice, que es poco pedir que dure. » Ce qui est intéressant là, donc c'est l'élément suivant qui apparaît après l'exhortation à la vie éternelle, qui est celui de là, bien évidemment, la succession. La succession qui est omniprésente, qui apparaît partout, hein, qui est vraiment un élément qui est caractéristique cette fois-ci de l'écriture autour de Charles II. Donc le genre de la célébration de la guérison du monarque connut une fortune formidable durant le règne du chétif et maladif Charles II. S'appuyant sur toute une série de topoïs conventionnels propres du panégyrique du prince, il célébrait avant tout la force de vie d'un souverain qui était devenu le centre d'attention de l'Europe du moment et dont la mort n'était, pensait-on, qu'une question de temps. Depuis la mort de Philippe IV, l'image et la réputation de la monarchie hispanique et, postérieurement, de son règne, seraient intimement et irrémédiablement liées à la figure, à la personne et à la personnalité même de son successeur, Charles II. Un jeune roi mineur hérité du trône royal, fait inédit depuis la création d'une Espagne centralisée sous les rois catholiques, quand, en la Europa de principios de la Edad Moderna, las minorías de edad de los reyes fueron desastrosas para la autoridad real y los gobiernos fuertes. Par ailleurs, ce même souverain présentait des signes évidents de fragilité physique, montrant des troubles de divers ordres, à une époque de fortune adverse où la monarchie hispanique avait atteint un état de profond épuisement et d'usure, ce qui contribua à la consolidation d'une image négative du royaume. En outre, le règne de Charles II coïncida avec le moment le plus fort de la crise du XVIIe siècle. Pendant la décennie des années 60, les problèmes majeurs de la monarchie tenaient depuis sa constitution de sa vaste extension et de la grande dispersion qui existait entre les nombreux territoires qui la composaient. Depuis la perte de l'hégémonie en Europe, l'Espagne était incapable de conserver toute seule sa structure territoriale. C'est ainsi qu'elle était entrée dans une phase de décadence. Il ne s'agissait pas d'une décadence généralisée, comme certains ont pu le soutenir, mais principalement économique et démographique, affectant sa capacité à conserver et à défendre l'Empire. L'ambassadeur vénitien Giovanni Cornaro reflétait d'ailleurs cette situation dans son rapport de 1682, où il imitait justement, il montrait que toutes les frontières étaient ouvertes, que tout était ouvert, il n'y avait plus de militaires, et que armata di mare non s'osserva, eserciti in terra non si discernono, i forti sono aperti, le fortezze smantellate non munite. Donc voilà, toutes les forteresses étaient totalement abandonnées, il n'y avait plus rien du tout. La monarchie espagnole devait affronter sur ses diverses frontières les prétentions des puissances émergentes et du fait de l'incapacité du monarque à donner un héritier à la couronne, ce qui contribua à la consolidation de l'image négative du roi, finit par voir l'extinction de la prestigieuse maison d'Autriche espagnole. Dans ce contexte défavorable, il convenait de renforcer l'image royale. Et à l'instar des peintres et autres artistes, qui jouèrent un rôle important dans la construction de la majesté royale, devenant d'utiles instruments au fort service du pouvoir, les poètes participèrent magistralement de la propagande en faveur du roi, de sa famille et de la couronne. Tout en manifestant leurs craintes en ce qui concernait l'épineuse question successorale, qui prit une place toute particulière dans leurs vers, les écrivains employèrent tous les moyens poétiques et rhétoriques pour encenser et magnifier la figure du roi et de la monarchie catholique espagnole. Les œuvres manuscrites ou imprimées relevaient ainsi toutes de la littérature encumastique, leur propos étant de manifester leur communion avec la famille royale, la couronne et la monarchie, comme cela était le cas des compositions d'auteurs individuels qui se faisaient alors le truchement du sentiment populaire et, dans le cas des relatos de sucesos, habituellement écrits en prose et parfois en vers, d'informer, de divertir et d'émouvoir le lecteur ou l'auditeur en soulignant la nouveauté, l'exclusivité et la grandeur, tant dans leur organisation et leur conception que dans la participation massive d'un public en liesse et leur popularité, des festivités ou célébrations décrites par des auteurs généralement peu connus. L'imprimerie vouait ainsi ces textes à une postérité certaine et garantissait à leurs auteurs une notoriété non négligeable, particulièrement dans la mesure où, grâce aux efforts financiers que supposaient les presses, ils pouvaient plus tard attester du service rendu et de leur appui personnel au monarque et à la monarchie, et prétendre ainsi à une quelconque faveur. Dans les recherches d'archives que j'ai pu mener, par exemple, à l'Archivo General de Palacio, à Madrid, il y a une période d'ombre, en fait, dans la vie, par exemple, de Antonio Zamora et également particulièrement Antonio Zamora. Cette période d'ombre, en fait, elle est comblée maintenant. J'ai publié un travail là-dessus, dans la mesure où en avançant les textes littéraires qu'il a pu écrire, Il demande carrément à Charles II de ne plus être soldat à son service, mais de devenir son auteur principal. Et il le devient. Il devient auteur de Bihanficoche. Il a une charge, il est payé mensuellement pour être auteur de Bihanficoche. Donc, ça c'est également intéressant. Donc, c'est ça en fait. Cette poésie, toute cette poésie qu'ont pu écrire les auteurs de cette époque-là, sont aussi des services rendus à la monarchie et donc seront utilisés comme tels pour la demande de biens, etc. Obéissant à des intérêts à la fois privés et publics, les poètes fabriquèrent ainsi une représentation de Charles II fondée principalement sur l'accumulation des images créées par les précédents représentants de la maison d'Autriche. Le jeune monarque, tel un miroir dynastique, recevait ainsi l'adoubement de sa lignée. Sur une accumulation et une condensation à outrance des lieux communs liés à l'éloge du prince, sur la combinaison tout aussi accumulative de figures allégoriques, mythologiques, astrologiques, historiques, héraldiques et dynastiques, et sur l'emploi d'une rhétorique hyperbolique et superlative basée sur la polyadjectivation et la caractérisation multiple, l'abondance de superlatifs et l'hyperbole. Aux représentations métaphoriques et symboliques, en soi hyperboliques, s'ajoutait aussi le recours à des genres poétiques, une versification et un style rhétorique en adéquation avec le propos encomiastique des compositions. Les représentations hyperboliques et superlatives, l'idéalisation et la divinisation à laquelle était soumise la figure du roi, l'exaltation démesurée de sa personne devaient conforter la légitimité et l'autorité d'un chétif Charles II qui présentait alors de manière superlative toutes les caractéristiques de vertu, de bon gouvernement, d'exemplarité, de défense de la religion et de l'état du prince catholique. Je vous remercie.